Qui c'est qui t'a offert ça, mémé?
Moi?
Comment ça, toi?
C'est moi qui me les offre.
Ah bon?
Ben oui, que veux-tu qu'il me les offre? Vu que personne ne me fait des compliments, je me les fais toute seule. Hein, vous êtes chez la meilleure grand-mère du monde. Et l'autre à côté, ici, habite la meilleure maman du monde. Et c'est exactement ce que je suis. S'ils ne le reconnaissent pas, eh ben tant pis. Moi, je me reconnais dans tout ça. Dans tout ça.
En sol majeur, Yasmine Chouaki.
En sol majeur.
Mais qui parle? Qui ose dire, ne pas dire ou dire à moitié? Cette voix que l'on vient d'entendre dans cette rediffusion en sol majeur appartient à la grand-mère de notre invitée, Lina Swalem, qui s'était promis de ne pas rejoindre le grand arbre du cinéma comme ses parents. Et que voilà rattrapée par les branches du documentaire. Un doc né dans sa tête après que ses grands-parents aient décidé de se séparer. Leur Algérie, qui a reçu le prix Doc in Progress en marge du festival de Cannes, pose des questions intimes et rejoint le grand récit collectif autour de ce visage un peu flou, tellement vague, appelé « immigration ». Comment faire parler les silences algériens? Comment réveiller 1945, 1954, 1962? Et comment se satisfaire de la pudeur des réponses? En même temps, l'image n'a rien de sage dans la famille Swalem. Peut-être même qu'elle joue à saute-mouton et que de génération en génération, elle devient de plus en plus impertinente. Bonjour Lina Swalem.
Bonjour.
Bonjour Aïcha.
Bonjour.
Pour accueillir votre très beau documentaire qui sort donc le 13 octobre prochain, on est venu jusqu'à vous, à Paris, dans le 11e. Et votre grand-mère, avec le désir secret de réaliser une émission métissée entre un ensol majeur donc autour de vous, Lina, et de votre parcours qui démarre, et un esprit de famille avec votre grand-mère, Aïcha, on vous remercie de nous accueillir. Shirarimiti, pour ouvrir le bal. Une des premières femmes, Aïcha, vous riez déjà, hein ? Une des premières femmes à chanter le raï comme les hommes dès les années 40 en Algérie. Pourquoi elle, Lina ?
Parce que je trouve que c'est déjà une pionnière, qu'elle n'est pas aussi mise en avant que les chanteurs de raï masculins, et qu'elle a une voix et un physique extraordinaire, et elle me rappelle les figures féminines énigmatiques comme ma grand-mère, et elle m'inspire beaucoup. Et cette chanson, d'ailleurs, s'appelle Aoulidi, donc mon enfant. Et donc, c'est aussi la transmission, l'amour des enfants, et ça me touche beaucoup.
Aïcha, est-ce que vous aimez Shirarimiti?
Je l'aime bien parce que mon fils, il l'aime bien.
C'est lui qui te l'a fait découvrir?
Eh bien, oui. C'est lui qui m'a fait découvrir pas mal de
chanteuses.
De chanteuses.
وليدي 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 ولي
une grand-mère et sa petite fille heureuse d'écouter Shira Rimetti, c'est forcément sur RFI. Aïcha, est-ce que vous arrivez à traduire les paroles de cette chanson pour votre petite fille Lina, d'ailleurs, qui comprend l'arabe en même temps?
Oui, elle comprend peut-être encore mieux que moi déjà. Ben, en gros, elle parle de son fils qui a dû partir quelque part et elle lui dit « Tu seras heureuse si tu reviens, quoi. »
Vous aimez bien le rail?
J'aime bien, moi, tout ce qui bouge.
Alors Aïcha, on va commencer par le portrait en sol majeur de votre petite fille, Lina Swellem, et puis on vous retrouvera toutes les deux un peu plus tard.
Merci.
S'il vous plaît, dessine-moi ton enfance.
Lina.
Enfance riche de multiplicité, je dirais. J'ai eu la chance de beaucoup voyager grâce à mes parents et à leur métier, surtout dans les images, dans les films et aussi dans des territoires dans lesquels on n'a pas forcément la chance d'aller, surtout en suivant ma mère qui a beaucoup travaillé dans le monde arabe. Et j'ai eu la chance de faire des rencontres dès un très jeune âge avec beaucoup d'artistes et de cinéastes dans le monde arabe, ce qui m'a énormément influencée, enrichie. Et à la fois d'avoir une grande famille, notamment en Palestine, de beaucoup de femmes, beaucoup de cousins. Donc j'ai été enrichie de plusieurs choses, quoi, de la tradition du village de ma mère jusqu'au plateau de tournage en Syrie ou en Jordanie. Donc voilà, je pense que c'est ça qui m'a beaucoup marquée. Et à la fois le 11e parisien dans lequel j'ai grandi.
Absolument, puisque vous racontez dans votre court-métrage Le Marcheur Pressé, ouais, que vous avez grandi dans ce 11e, entouré, je vous cite, de magasins de mangas japonais et de boutiques punk et gothiques qui vous effrayaient petite. Vous avez été dans un lycée classé en zone ZEP, zone d'éducation prioritaire, où vous dites que le destin scolaire d'une Stéphanie et d'un Sofiane n'était pas le même, c'est-à-dire ?
Bah ça, c'est quelque chose qui m'avait frappé à l'époque quand j'étais au collège, c'est que, en fait, selon d'où on venait nous orienter différemment. Et comme le collège dans lequel j'étais était en ZEP à l'époque, il y avait beaucoup d'enfants issus de familles immigrées. Les conseillères d'orientation nous conseillaient de faire des CAP et des BEP parce qu'on travaillerait plus rapidement et que les études générales étaient trop longues et trop compliquées, qu'il y avait beaucoup de chômage et peu de débouchés. Et c'est vrai, quand on a 14 ans et qu'on entend ça et que toutes les copines vont faire un CAP maroquinerie ou coiffure, on rentre à la maison, on dit bah, je vais aller avec mes copines faire ça. Et donc moi, évidemment, mes parents, mon père étant né en France, il connaissait le système scolaire français, m'a dit bah, c'est hors de question, tu vas aller au lycée. Et c'est vrai que j'ai dès ce moment-là commencé à percevoir en fait les inégalités. Donc c'est vrai que ça m'a beaucoup marqué dans ma scolarité, ça, de voir cette séparation dès le collège.
Signe particulier pour vous, Lina Swellem, vous avez grandi entre deux grands comédiens dont on va entendre la voix. D'abord Yam Abbas, dans son film Héritage, une scène dans laquelle vous vous retrouvez en face.
Alia, حياة جديدة مستنيتك. جوزك راح يكون شريكك بكل شيء. انت فاهمه؟
اه ماما فاهمه.
لازم تلبسي له وتتزوقي له. اوعك تنصحي.
خدي ماما احسن مثال.
طب خليكي بشغلك لنا.
ماما بعرف قريت بالكتب.
ماما هاي اشياء بتتعلميهاش من الكتب. بليله الدخله لازم المره تقدم حالها لجوزها على الاخر، يعني لازم تعطيه كل شيء، الحساس واللي مش حساس، الجنس بتعرف يعني شيء
حلو. اسمعوا، عدوا الرجل الاعور البارودي الحنش المحارب ابو الخوذه.
استحي على دمك لنا، روح حضري العشاء. وام
زين الدين سوالم en face de Fellag dans Inch'Allah Dimanche.
Je suis très très content. Aïe, la famille est là. Alhamdoulilah.
C'est la famille qui est
là. Là, je n'ai pas confiance. Mazal, ma regroupement familial, je ne sais pas. Je ne كل شيء اللي في الكارت انا ما نامنش به، جو با كونفيونس.
انا مليت انا ولا 10 ans ولا 6 ans ولا انا هما لهي انا لهنا ما درتش
كيف كيف. انا ثاني مليت لكن عندي الدار لا ميزو تما لازم واحد يزبط السنتوره سو بليجي.
انا ثاني نزبط السنتوره بصح تجاوبي سي تو خلاص.
اسمع انا لازم نمشي. لا مش لا لا الفوق جامي اللي كامل اوبليجي معايا احمد سلامه خويا. لا 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 مره اخرى ان شاء الله لا بروشين فوا راك في تالي ومن بعد استالي ترونكيل.
Zindine Soualem et Yamabas pour En sol majeur, autrement dit papa et maman, sur grand écran pour vous, Lina Soualem, c'est comment de grandir entre deux parents comédiens ?
C'est une question difficile, vu que c'est ma réalité, je ne sais pas ce que c'est de ne pas grandir avec deux parents comédiens. Mais c'est vrai que pour moi, ça a toujours été quelque chose de très positif dans tout ce qu'ils ont pu me transmettre, parce qu'en plus des parents au quotidien, il y avait aussi toutes ces histoires qui restaient des films dans lesquels ils jouaient. Donc c'est vrai qu'il y avait un héritage visuel et narratif assez extraordinaire, je pense, qu'il nous a beaucoup rempli l'imaginaire à ma sœur et moi.
Mais ça vous fait rire hein, quand vous écoutez ces extraits.
Ah bah oui,
ces extraits.
Ça me fait rire. Ouais,
mais
ouais.
Qu'est-ce qui vous fait rire ?
Bah mon père, ma mère, les sujets. Bah là, la scène avec ma mère, c'est assez drôle parce que c'est une scène un peu de provocation où je pense que ma mère a dû rejouer quelque chose qu'elle avait peut-être vécu avec sa mère, où elle avait un esprit un peu rebelle et ma grand-mère était plus traditionnelle. Et le fait que là, c'est ma mère qui joue la mère traditionnelle et qui met ma sœur dans le rôle de rebelle, il y a vraiment aussi de la transmission partout et ça me touche beaucoup.
De l'intertextualité. Absolument. Familiale quasiment.
Et ouais. Pour mon père, c'est pareil, j'ai l'impression qu'il imite un peu mon grand-père et comment il pouvait être dans ses relations sociales avec d'autres Algériens, donc ça nous fait rire.
Il lui a plus donné de nouvelles.
À qui ?
À Lila. À qui ?
Ah, tu l'as revue ?
Après, j'ai envoyé un message pour savoir s'il était bien rentré. J'ai plus jamais eu de nouvelles.
Mais toi, Sergio, tu l'aimes bien, tu veux le revoir ?
Mais pourquoi il fait des trucs pas. Comme ça ?
Je sais pas.
Regarde.
Ah, la pauvre.
Je suis une fantôme.
Qu'est-ce que tu sais ? Je sais que c'est la mère
de l'Amir. Je ne sais pas. سقسيتك برك ما كاين والو.
هازي
سامحني.
لا ولا essayer.
Bah en fait on a une projection juste à côté et on voulait savoir si on pouvait venir payer plus tard puisqu'on est super en retard et on n'a pas du tout le temps de faire l'aller-retour. Donc si vous voulez je vous laisse ma carte d'identité, ça vous dérange pas?
Trois films pour En sol majeur dans lesquels vous jouez, Lina Soualem. Je remarque une chose, c'est que d'abord, vous avez une voix. Trois films, donc Tu mérites un amour, d'Afzia Herzi, À mon âge, je me cache encore pour fumer, de Rayana, et Super Host, d'Alix Penquin. Une question ouverte et peut-être pas si simple pour vous, je ne sais pas. Est-ce que vous avez du plaisir à faire l'actrice ?
Pas si simple, effectivement. J'ai du plaisir, mais c'est difficile pour moi de commencer, disons. Une fois que je suis dedans et que je joue mes scènes, j'aime beaucoup.
De commencer, c'est-à-dire de traverser le miroir.
Oui,
ou
c'est ça.
De plonger.
C'est-à-dire de dire oui, je vais le faire, et puis d'arriver sur le tournage en disant ok, je vais jouer.
Pourquoi ?
Je sais pas, il y a une espèce de crainte, de peur aussi, peut-être une pression, parce que aussi j'ai des parents qui font ça et qui le font très bien. Donc, toujours l'impression de ne pas être à la hauteur. Aussi parce que ma sœur est comédienne et c'est vraiment son truc et je sais que c'est un métier de passion. Mais c'est vrai que c'est pas une question de vie ou de mort comme beaucoup de comédiens et comédiennes pour qui c'est vraiment vital et c'est une question de survie et d'avancer dans la vie.
Comment vous, parce que la question se pose évidemment, comment vous, la fille de comédien, vous en êtes arrivée au documentaire ?
Alors c'est un long cheminement entre plusieurs choses, mais moi j'ai fait des études d'histoire et de sciences politiques. Et finalement, dans le cadre de mes études, j'ai été en Argentine pendant un moment. Et finalement, je suis tombée sur un festival de cinéma des droits de l'homme. Et puis, on m'a proposé un boulot de programmatrice là-bas de films cinéma du Moyen-Orient avec un focus cinéma palestinien. Et en faisant ça, j'ai découvert donc le genre documentaire. Et je me suis rendu compte que c'est ce que moi, j'avais envie de faire aussi, de combiner mon intérêt pour les thématiques socioculturelles, l'histoire des sociétés arabes contemporaines, et la forme cinématographique, le langage de cinéma dans le documentaire qui est très libre aussi.
Comment l'intime peut raconter le collectif ? Et il y a évidemment des documentaires qui vous ont inspiré, vous en avez vu beaucoup. Vous m'en avez cité quatre, on peut peut-être en évoquer un parmi A World Not Ours, Mes souliers rouges ou L'épine dans le cœur.
Alors je vais parler de A World Not Ours. C'est un film sur un camp de réfugiés palestiniens. Et il commençait avec des images d'archives pour raconter l'histoire de sa famille qui s'est réfugiée d'abord au Koweït puis au Liban, avec un ton humoristique. Et finalement, quand on plonge dans le film et la réalité du camp de réfugiés, ce n'est que tragédie sur tragédie. Et le contraste entre le rire et les larmes, ça m'a vraiment inspirée. Je me suis dit, mais moi j'ai l'impression que mon histoire familiale est aussi marquée par ces rires et ces larmes et que j'ai aussi envie de raconter ces histoires-là en passant par l'humour, l'amour, le partage.
Et puis ce jeu qui raconte le nous.
Absolument.
Mahie Arbuke Essullem El Kebir.
Quel est votre sol majeur ?
Qu'est-ce que ça veut dire exactement ?
Je vais vous rappeler le principe de l'émission. D'accord. Qui s'appelle En sol majeur. Oui. On y évoque des parcours et surtout un lien à la terre, au sol.
Ah oui, mon sol majeur. Alors c'est une bonne question. C'est toujours en construction, disons. Je pense que leur Algérie, c'est, le film a permis de retrouver une place un petit peu dans toutes ces sociétés auxquelles j'appartenais sans appartenir. Et je pense que je suis composée de tous les territoires qui marquent la mémoire de mes familles. Mm-hmm. Donc voilà, il y a la France, l'Algérie, la Palestine.
Mais on va mettre quelques mots, on va les poser sur la table pour que vous puissiez réagir et peut-être approfondir ce regard sur ces multiples territoires qui sont les vôtres. Il y a le mot « histoire ». Le mot « terre » et le mot « peau ».
Absolument. Ça, c'est intéressant parce que dans mon parcours, j'ai découvert quelque chose sur ma génétique qui m'a bouleversée, disons. Depuis toute petite, ma sœur et moi avons un problème génétique de la peau. Et je me souviens, à 15 ans, ma dermatologue qui m'a demandé s'il y avait des croisements de migration entre la famille de ma mère et la famille de mon père. Et je trouvais ça très réducteur. Je disais « absolument pas ». Ma mère est de Galilée, c'est des Palestiniens. Puis mon père est de la région de Sétif et c'est deux régions très lointaines. Il n'y a aucun croisement de migration entre ces deux pays. Et en fait, un jour, sur Facebook, je suis tombée sur une conférence de l'IREMO qui s'appelait « Algériens de Palestine, Palestiniens d'Algérie, une histoire croisée ». Et là, j'ai eu un espèce de choc. Je me suis dit, c'est pas possible, en fait. Qu'est-ce que c'est que ça ? C'est pas vrai, en fait. Donc, je suis allée à cette conférence. Et j'étais absolument fascinée parce que j'ai découvert qu'effectivement, il y a eu des croisements de migration, typiquement entre les régions de mon père et de ma mère, c'est-à-dire la Galilée et la petite Kabylie et la Kabylie. Et finalement, il y a peut-être eu des croisements génétiques à ce moment-là qui expliquent que quand mes parents se sont trouvés par le hasard, ils avaient peut-être un gène lointain commun, ce qui aurait provoqué cette maladie.
Parce que ce que vous ne dites pas, vous parlez d'une maladie de la peau, c'est que vous avez des taches ou des plaques sur le corps qui dessinent un atlas, sorte d'atlas.
C'est ça, des petits mondes qui se forment et qui se déforment, qui disparaissent avec le soleil, qui réapparaissent avec le froid. Mais ça m'a presque fait du bien dans le sens où je sentais que ces territoires faisaient partie intégrante de mon identité.
Donc on va parler de l'Algérie avec ce documentaire, mais sur la Palestine, vous parleriez d'un rapport épidermique ?
Un rapport épidermique, un rapport charnel, un rapport...
Parce que vous connaissez ce coin
de
terre.
Oui, j'ai une très grande famille là-bas, puisque ma mère a eu... ils sont 10 frères et sœurs dans sa famille.
Et vous connaissez le parcours des femmes de votre famille,
Absolument.
Notamment.
Oui, j'ai le projet de faire un second film documentaire, justement, sur la transmission de la mémoire et de l'histoire familiale à travers les femmes de ma famille palestinienne en Galilée.
Donc un rapport épidermique assez multiple terres. La Palestine, l'Algérie aussi, mais concernant l'Algérie, il vous a fallu un prétexte pour vous cogner à ce documentaire « Leur Algérie », c'est-à-dire la séparation de vos grands-parents.
Ouais.
Pourquoi est-ce qu'il a fallu ce déclencheur là ?
En fait, ce que je disais souvent quand je cherchais des soutiens pour faire le film, des soutiens financiers, et je commençais toujours les pitchs de la même façon, et c'est la réalité, c'est que dans ma famille palestinienne, la mémoire est vitale. Et on survit en racontant les histoires, on survit à travers les mots, alors que dans la famille algérienne, le silence permet de cacher les vérités. Et finalement, on se réfugie derrière le silence pour avancer. Donc, c'est deux façons de vivre l'exil et le trauma collectif de manière très différente. Et j'étais toujours marquée par ce contraste, mais je ne savais pas trop quoi en faire. Mmh. Et au moment où mes grands-parents, justement, se sont séparés, ça a été un vrai choc pour moi. Et je me suis rendu compte, à ce moment-là, du poids de ce silence. et du fait que je voulais plus, je pouvais plus le supporter et ne pas l'explorer. Et j'avais besoin de comprendre d'où il venait, ce qu'il cachait, s'il cachait quelque chose. Et c'est vrai que la séparation était un prétexte dans le sens où je démarre par la séparation, mais finalement, ça me renvoie très vite à l'Algérie et surtout à la douleur du déracinement qui est en fait la cause de ce silence.
On se demande, quand on s'attaque comme ça à l'histoire familiale et ben voilà, à la génération des grands-parents qu'il va falloir faire parler, comment on structure un film de cette espèce?
C'est le grand challenge. Bon, j'ai beaucoup filmé, j'ai beaucoup fait d'aller-retour entre le montage et le tournage. Et j'ai une monteuse d'ailleurs, je travaille toujours avec elle, Gladys Joujou, qui est libanaise en France depuis une trentaine d'années, qui a une sensibilité extraordinaire. Et du coup, le défi qu'on avait toutes les deux, une fois que j'avais les images, c'était de faire ressortir le non-dit de ces images. Parfois, le silence raconte plus que les mots. Donc, c'est s'intéresser aux gestes, à la gestuelle, à la façon dont les corps vont circuler dans les lieux. Et au lieu de tout le temps demander des réponses et de poser des questions, j'ai aussi parfois essayé de nouvelles choses, c'est-à-dire amener les personnages dans les lieux. Quand j'amène mon grand-père, par exemple, au musée de la coutellerie dans les usines, finalement, c'est des choses qu'il ne m'aurait pas forcément exprimées si j'avais posé la question. Mais qu'en le ramenant sur ces lieux, ça permet de réactiver une mémoire peut-être enfouie en touchant le métal, en voyant les machines. Et c'est vrai que c'est aussi utiliser des images d'archives pour réactiver la mémoire.
Car le challenge aussi, l'intérêt pour vous, c'est à la fois de réveiller les blancs de leur histoire intime. Et il y a ces silences et ces blancs aussi sur la grande histoire. Vos grands-parents viennent d'une région, Sétif, qui a été marquée par l'histoire. On se souvient de mai 45. Là, vous avez une, entre guillemets, cette stratégie d'archive pour réveiller cette mémoire.
Alors, ce n'était pas forcément planifié. C'est que j'ai essayé de parler de ça avec mon grand-père, avec ma grand-mère. Et il y avait très peu de réponses. Et finalement, je suis passée par les images pour les réinscrire dans cette histoire et pouvoir en parler. Et je pense qu'en montrant les images à ma grand-mère, si tu te souviens, les images d'archives de mai 45...
Avec un sourire dans les yeux déjà.
Dans le film.
Dès qu'il y a un sujet sérieux, ouais. Le rire n'est pas loin.
Ça. Mais ça a permis de faire ressurgir une mémoire, je pense que peut-être elle avait enfouie. Parce que quand je lui posais des questions, je disais, mais tu vivais à côté de Sétif. En mai 45, il y a eu vraiment une répression très sanglante.
D'indépendantistes pacifiques algériens.
D'Algériens qui, en fait, ont vu la France se libérer des Allemands et qui se sont dit, bah, si la France se libère, c'est génial, nous aussi, on va se libérer. Ils ont exprimé cette volonté de liberté et on les a réprimés dans le sang. Et je me suis dit, mais ils étaient vraiment à quelques kilomètres, comment ça se fait qu'elle ne se souvient pas, qu'elle ne peut pas m'en parler? Et quand je lui demandais, tu te souviens? Non, je ne me souviens pas. Puis petit à petit, il y avait des petites anecdotes comme ça. Et finalement, quand on a regardé les images ensemble, il y a plein de choses qui ont ressurgi.
Ce que je me suis dit en regardant votre documentaire, Lina Swellem, leur Algérie, c'est qu'en fait, vous avez appris à faire avec les silences. Vous avez appris à analyser de façon assez fine ces silences.
Bah, c'est exactement ce que j'ai ressenti en faisant le film, c'est-à-dire que je suis partie d'une volonté de briser le silence. Petit à petit, quand j'ai compris d'où il venait, il me parlait beaucoup plus. C'est aussi, on m'a aussi transmis ce silence qui, finalement, j'ai un peu plus compris ce qu'il signifiait.
Les lieux, vous l'avez dit, dans lesquels vos grands-parents vivent et ont vécu, évidemment, ont leur importance, vous les filmez. Est-ce qu'on peut dire un mot de ce lieu où on se retrouve aujourd'hui et où on enregistre cette conversation en sol majeur?
Oui, c'est mon appartement. C'est l'appartement de mon père, parce que mon père habite au 5e étage.
Des livres, des photos, un piano.
Voilà.
C'est le résumé de la
J'entends
vie.
J'entends mon père qui tousse au 5e étage.
Vous pouvez l'entendre.
Ah oui, je l'entends.
À 17 minutes de ce documentaire Leur Algérie, vous êtes dans la cuisine, Lina Swellem, avec votre père, Zindine Swellem, et votre grand-mère, Aïcha. C'est un moment fort où on voit que faire un film ou faire de la radio sur l'intimité des siens, c'est pas si éloigné. Donc à la fin de cet extrait, je vais vous laisser réagir avec Aïcha pour un moment de vrai tête-à-tête, ambiance, esprit de famille.
On dirait son père, là.
Bah, ça y est.
Purée.
Il ressemble à Pépé.
Affreux. Bah, tu trouves pas, toi?
Même sur scène hier, elle m'a dit que.
Bah, alors là, c'était ton père hier.
Elle a dit quoi?
Qu'est-ce que t'as dit ce matin, hier?
Oui, que c'est la même tête.
C'est mon père.
Plus jeune.
Et donc, t'aimes pas?
Non.
Quoi non?
Non, pas toi, la tête de ton père. Hein.
Qu'est-ce qu'il a, cette tête de mon père?
Parce qu'il m'énervait.
Et Pépé, pourquoi vous avez jamais emmené vos enfants en Algérie, vous?
C'est tout le monde à elle, c'est pas moi.
Ouais, ben, je demandais à moi parce qu'il n'allait pas.
Oui, mais toi, il t'a amené.
Mais moi, il m'a amené quand j'avais 5 ans. Je m'en souviens pas vraiment. Quand je réfléchis, je vois des espèces de montagnes.
T'aurais pas voulu qu'il t'emmène plus? Qu'il te fasse connaître?
Mais il y va pas. Il y allait pas.
Oui, mais toi, t'aurais pas voulu?
Si, mais bon, c'est pas un manque, puisqu'on le faisait pas.
Mais du coup, t'étais toujours en phase avec ton identité? T'étais jeune, quand t'es née à Thiers, et tu voyais que ta mère, elle parlait pas bien français, et que... Et tu savais que tes parents étaient algériens, mais t'étais en France, il n'y avait pas de...
Mais j'étais algérien, moi.
Oui, mais ça veut dire quoi?
Ça veut dire qu'à 18 ans, je suis resté algérien. Moi, je ne suis pas allé au commissariat pour dire que je suis français. Moi, je me suis fait naturaliser français à 28 ans, alors que je suis né en France.
Ah, donc, tu vois, oui, mais tu disais je suis algérien sans jamais aller en Algérie. Donc, qu'est-ce que ça voulait dire pour toi?
Ben, quand on est algérien, on est algérien. Il n'y a pas besoin d'aller en Algérie.
Qu'est-ce que t'en penses, Mémé, de quand on est algérien, on est algérien?
Quand on est algérien, on reste algérien. Hein.
Tu te souviens quand j'ai filmé cette scène? Quand on était là-haut chez papa, dans la cuisine?
Ben oui, je m'en rappelle bien.
Parce que c'était la première fois qu'il me parlait du mythe du retour. Le fait que quand il était petit, vous pensiez que vous alliez retourner.
Ah ben oui, ça, tous les Algériens de Thiers, c'était prévu après la guerre, peut-être qu'on va... n'oblige à repartir, et puis du coup les gosses ils ont commencé à aller à l'école, à bien apprendre, on n'a pas voulu leur couper leur avenir quoi, on s'est dit on attend, après ça on verra, et puis après les jours passent, les années passent et on est resté.
Parce que papa il a appris par le tonton Salem, Allah yirhamo, il y a quelques mois, qu'en 62, quand Pépé l'a amené, quand il avait 5 ans...
Ah oui, il l'a amené en Algérie.
Voilà.
Oui.
En fait, Pépé essayait de se réinstaller là-bas.
Ah oui, c'est ça.
Mais donc, il a quand même essayé.
Oui, il a essayé, et puis il a réfléchi, quoi, qu'il ne pouvait pas, là, je te dis, couper les laisser faire leurs études, et on verra après. Et bien après, on s'est habitué ici, et on est resté. Et moi, je suis retournée en Algérie à partir de l'âge de... 55 ans.
Et pourquoi?
Ben, quand ma mère elle est morte et que je n'ai pas pu y aller à l'enterrement, je voulais aller voir quand même où elle était enterrée pour me la garder en souvenir. C'est qu'après que je suis
allée... Tu te souviens quand Pépé, là sur cette photo, ben, il avait...
Je l'ai connu comme ça.
Il avait quel âge?
Ben, on s'est mariés, moi j'avais 15 ans et lui 22. 20.
Ah oui, 22. Non, 20 ans, parce que vous avez 5 ans de différence.
6.
6 ans, donc 21 ans.
Là, il était jeune quand il est arrivé en France. Il était jeune, il avait peut-être 17 ans, 18 ans aussi.
Et il te racontait comment c'était en France quand tu l'as rencontré en Algérie?
Non,
ou il t'a rien...
on se parlait pas.
Vous parliez pas. Il t'a jamais rien raconté, quoi.
Non. Ouais. Moi, j'ai joué à la poupée.
C'était pas trop dur d'être à Thiers dans cette ville que vous connaissiez pas, là? Au moins, t'avais
ben
ta
là,
sœur.
Ben là, je commençais à m'habituer un petit peu.
Mais au départ, c'était pas facile, tu m'as
ben,
dit.
Ben, c'était difficile, oui. Je comprenais pas bien le français. Je comprenais, mais je pouvais pas parler. C'est du moment où j'ai eu les enfants, que je les amenais à l'école, que je revenais, tout ça.
Toute la journée?
Toute la journée. Je montais, c'est à Thiers, c'est une ville qu'on n'arrête pas de monter et descendre. Mais j'étais bien. Je parlais avec les enfants. Parce tout le temps en français pour que j'apprenne le français.
Et t'as appris avec le journal La Montagne aussi, ta voisine?
Ouais, c'est ma voisine, oui. Je me rappelle toujours.
Comment elle s'appelait?
Madame Durantan.
Comment elle t'apprenait? Parce que c'est dur d'apprendre le français à partir d'un journal quand même.
Oui, ben, elle me faisait voir les lettres et puis je les ai. Là, enfin, la suite, quoi. Plusieurs fois et puis je m'intéressais beaucoup... Quand ils revenaient de l'école, après quelques années, quand ils allaient au lycée, tout ça, je surveillais les devoirs. Voilà, je surveillais quand même.
Ouais, malgré tout.
Malgré tout, je surveillais. Et puis, j'essayais qu'ils soient le mieux possible, quoi.
Parce qu'en Algérie...
J'ai pas mal réussi, quand même.
Ouais, bah oui, t'as réussi. Enfin, dans le film, tu dis que t'as pas réussi à transmettre ce que tu voulais, mais...
Là, j'ai pris un petit peu de courage, je pense. Ça vient tout doucement.
Mais qu'est-ce que tu as pas réussi quand tu dis, dans le film, que t'as pas réussi à transmettre ce que tu voulais transmettre? C'est par rapport à la culture algérienne?
Oui, voilà, moi, je... Déjà, la culture algérienne, je suis pas allée à l'école de... coranique, donc je leur apprends que ce que j'entends des autres.
Et quand tu étais en Algérie, tu me racontais que, parce que tu es quand même passée de jouer aux poupées avec tes copines à arriver en France avec un mari que tu connais pas, et tu me racontais que vous faisiez des petites poupées avec de la paille.
Des petites poupées, on mettait un petit morceau de bois comme ça, on leur faisait des robes algériennes, et on les maquillait, on leur faisait des yeux, un petit peu de rouge à lèvres. Soraya, Malika, Farida, tout
c'est
ça.
C'est les noms des poupées.
Les noms des poupées. Le matin, je fais le ménage, je fais à manger pour la famille, pour le pépé, les beaux-frères et belles-sœurs. Et l'après-midi, je suis à la poupée.
Et qu'est-ce que vous faisiez comme jeu avec les poupées? Elles discutaient entre elles ou qu'est-ce qu'elles se racontaient, les poupées?
Ah ben, on ne les faisait pas parler. Ah ouais. Elles étaient muettes.
Comme vous.
Comme nous.
Oui, Tintin, oui. Oh, non, elle est là encore, hein. Voilà.
Regarde voir ici là.
Tintin, le chien.
Comment il s'appelle le chien, Nina?
Le chien Milou.
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 Tu connais bien Milou, hein?
Oui.
Et parlez un peu arabe là entre vous là. C'est la honte.
Hein?
Le chien est crevé.
Non mais pas elle, c'est vous entre vous.
Voilà Milou.
Non. Chauffez, Nina, chauffez.
On en a parlé un petit peu dans le film, mais qu'est-ce que ça t'a fait, toi, quand t'as découvert que papa, il faisait du mime, déjà, qu'il se maquillait en mime et qu'il faisait des spectacles de mime?
Ben moi, j'étais contente pour lui. Hein.
Tu t'es pas dit que c'était un métier, parce que c'est un métier qui n'existait pas vraiment autour de vous. Donc,
c'est Pépé qui était pas bien content, mais après, il était fier après de faire voir les journaux à ses copains et tout.
Et ensuite, quand il faisait du cinéma?
J'étais fière, bien sûr. J'ai tous les journaux d'amant chez moi. Les revues, tout. J'ai tout.
C'est quoi le film préféré dans lequel papa a joué pour toi?
Charles, dimanche, il est bien.
Ouais.
La vieille, elle était méchante, par contre.
La belle-mère?
Folle. Ah, ouais. Je sais pas, on m'avait demandé de jouer le rôle. J'ai dit, moi, jamais. Je crois bien que ton père me l'avait proposé.
Ah oui, de jouer le rôle de la belle-mère?
J'ai dit, moi, j'arrive pas, je suis pas méchante, j'arrive pas à faire toutes ces choses-là.
Ah oui, c'est
je
fou.
L'ai pas rêvé, j'en suis sûre qu'il me l'a demandé. Il m'a dit, faut pas rire. Je lui ai dit, c'est difficile, faut m'en retenir.
Tu les reconnais? À quoi tu penses?
C'est la mère et le père. Ils sont morts jeunes. Elle est née en 1918. Et lui en 1907.
Il était fier de toi quand t'es parti en France?
Eh bien oui, parce qu'on est nourrissés d'ici, c'est nous qu'on leur envoie les sous. C'est pour ça, déjà, à maman, ils n'aimaient pas garder les photos. Parce que ça leur rappelle les mauvaises choses.
Ces photos, ça te rappelle quoi?
Ça ne rappelle rien. Qu'est-ce qui te rappelle? On en a tellement vu, on en a tellement parti de bonheur. En 49-50, tu es parti. Qu'est-ce que tu as laissé? Rien derrière. T'as rien laissé derrière.
T'as reconnu là, c'est Pépé qui parle de ses parents quand je lui montre la photo. Bah oui, c'est ton ex-mari.
C'était mon mari quand même, on n'était pas divorcés.
Séparation juridique.
Voilà.
Mais à quoi ça te fait penser quand tu l'entends parler de ses parents?
C'est triste, quoi, c'est tout.
Pourquoi?
Parce qu'il n'est pas resté longtemps avec eux aussi, quoi. Il est parti, il avait 17-18 ans en France. Moi, je ne les connaissais pas avant, hein. Donc, je ne connaissais pas sa vie d'avant.
Il ne te parlait pas de ça? Il ne te racontait pas?
On ne raconte rien du tout. Silence complet.
Et du coup, quand Pépé dit qu'il n'a rien laissé derrière, ça veut dire quoi? Qu'il n'y a plus rien au village ou que...
ben, je ne sais pas ce qu'il dit de parler ça, parce qu'il a laissé son père et sa mère quand même, mais ses frères et sœurs. Mais je veux dire.
Mais il le dit à la fin de sa vie, c'est peut-être qu'il a, oui, qu'il a rien construit là-bas et qu'il n'a pas pu se construire là-bas.
Oui, ça, c'est sûr.
Mais toi, c'est quand tu penses à l'Algérie, tu penses à quoi?
Moi, j'étais bien. Je ne veux pas dire que j'étais
là-bas.
Pas. Là-bas, j'étais bien avec ma mère. Après 15 ans, j'ai su que j'étais bazardée. Non, je ne veux pas dire ce mot, c'est marqué. Mariée. Je suis restée 2 ans dans la belle famille. Après, je suis venue. J'ai ramené avec moi le tonton Farouk. 1 an après, son frère l'a fait venir. Voilà, c'est moi qui les ai élevés.
Mais toi, t'aurais préféré rester avec ta mère?
Je n'ai même pas réfléchi. Hein. C'est pas comme
t'as
les
pas
jeunes
eu le
maintenant.
Choix,
mais... moi, je... C'est pas que j'ai pas eu le choix, mais là-bas, c'était comme ça.
Mais aujourd'hui, quand tu penses à l'Algérie, c'est un lieu... Ah ben, t'aimerais passer du temps, t'aimerais retourner, c'est un
oui,
lieu.
J'aimerais bien retourner pour les vacances. Parce que moi, je suis habituée ici maintenant. C'est ouais. pas, on n'a pas la même mentalité avec ceux de maintenant, quoi. Moi, je suis habituée.
Oui, ça fait trop longtemps que voilà, t'es partie. J'ai toujours pensé que c'était en Algérie, ces images. J'ai rêvé qu'on y était allé, que c'était là-bas.
Ouais, on dirait, mais on est à Thiers. C'est une salle des fêtes de la mairie, je crois. Et c'est ta grand-mère qui a tout organisé. Les pays, il avait invité tous les Algériens de Thiers. Tu t'en souviens un petit peu, toi?
Non. Bah, on n'en a jamais vraiment parlé.
De?
Bah, de ces images. J'ai l'impression que c'est... que c'est pas la réalité. Pour moi, l'Algérie, c'est... Déjà, le film Leur Algérie, c'était pour mieux comprendre quel était le rapport de notre famille à l'Algérie. Notre place entre l'histoire de la France et l'histoire de l'Algérie. Qu'est-ce qui restait de l'Algérie en vous? C'est-à-dire...
Mais c'est resté que c'est notre pays, qu'on l'aime quand même, malgré qu'on n'habite pas là-bas, mais on peut y aller quand on veut, on peut... Je ne sais pas comment t'expliquer, moi. Ben, tu étais contente d'être allée là-bas, voir le petit village de ton grand-père et ta grand-mère.
Bah oui, moi j'étais... Bah, ça fait partie du processus du film, parce que... J'avais besoin de comprendre quel était le lieu qui restait dans vos souvenirs dont vous parliez, là, ma mère. Et surtout, j'avais besoin de poser mes pieds là-bas.
Eh ben oui.
Comme pour continuer aussi la transmission, c'est-à-dire que toi, tu me racontais dans tes histoires comment, quand tu allais faire les courses, la poste. Donc, quand j'étais là-bas, je cherchais tous ces endroits, l'épicerie. Et j'avais besoin de marcher, en fait, dans vos pas là-bas, pour aussi me sentir appartenir à cette histoire. Et finalement, je sais que je ne vais pas y habiter, ni m'y installer, ni peut-être, je ne sais pas si je vais y retourner, mais c'était important pour moi de mettre mes pieds sur cette terre.
Peut-être qu'on y retournera un jour, toutes les deux.
Peut-être qu'on retournera toutes les deux, oui. J'aimerais t'amener
et
pour montrer le film là-bas.
Peux...
Mais on retournera ensemble.
Peut-être un jour, Inch'Allah. Ouais. Je suis encore là.
Dans un appartement du 10e arrondissement parisien, entre un piano et des photos, suite de cette conversation hybride, un peu en sol majeur, un peu esprit de famille. Et la famille, c'est ce tête-à-tête entre une grand-mère, Aïcha, et sa petite-fille, la réalisatrice Lina Soualem. Et dans la famille Soualem, ça pianote comme ça. Le partage est plein de pudeur, de fou rire et de danse orientale à la Salah Sadawi. واستخبر مناظم المغني بغناه تنساهم اللي انت منه مهتم اشحال اشحال من هيم فيه مم ونسيناه. Tu te souviens de cette chanson?
Oui, je me souviens un peu, mais bah, je la connais pas complètement. Quoi.
Est-ce que tu veux bien chanter le petit refrain? Parce qu'on a essayé de le faire je plusieurs fois pour le film.
Je peux, mais avec ma voix là,
c'est
je
pas suis grave, c'est joli. Vas-y. C'est quoi, Melit? عييت مليت
عييت مليت وما الغربة بركاني
c'est
pas dire plus que ça
parce que ça c'est une chanson que tu me racontais que tu chantais avec les copines algériennes quand vous êtes arrivées en France.
Oui, on s'amusait, on rigolait comme ça quoi, mais
tu me disais que ça faisait remonter des,
ben, oui.
des souvenirs difficiles parce que c'était le début
exactement
de l'exil. Tu peux me raconter ça?
Je te dis, c'est très, très difficile quand on arrive dans un pays où on ne connaît personne, qu'on reste enfermé toute la journée, parce que les maris travaillent, ils partent le matin, rentrent le soir, et nous, on est en train de regarder le ciel, et on pensait à nos parents.
Et vous parliez en arabe entre vous, entre les femmes?
Ah ben oui.
Tout le monde?
On parlait qu'en arabe. Il y en a même, jusqu'à maintenant, ils ne savent pas bien, bien s'exprimer. Quoi, parce
en que... français?
Oui.
Toi, est-ce que tu parlais arabe-algérien avec tes enfants?
Au début, oui. Mais après, je voulais tellement apprendre le français que je suis partie...
Sur le français.
Sur le français.
Et moi, quand j'étais petite, tu me parlais en arabe-algérien? Parce que moi, je parlais l'arabe palestinien, donc est-ce
Et
que
oui.
tu te souviens?
Bah, je te parlais un petit peu, oui.
Et mais moi, je répondais en quelle langue quand j'étais toute petite?
Ben, la langue de Palestine, en arabe, quoi. C'était joli.
Tu me comprenais?
Ben, bien sûr. Parce que la Palestine, ils parlent arabe, mais il y a des mots que je ne comprends pas trop non plus, parce qu'ils parlent l'arabe littéraire.
Oui, moyen-oriental, oui.
Mais je comprenais quand même.
Moi, tu me comprenais?
Oui, bon, mais on ne parlait pas tellement ouais. longtemps, quoi. Tu étais bébé un peu.
Qu'est-ce que je disais en arabe comme mot?
Ben... La chaise, le coursi. Mais franchement, on n'a pas parlé longtemps, longtemps, quoi.
Après, on parlait en français.
Après, on parlait en français sans arrêt. Quand je venais vous garder...
Bah, on était à l'école, donc on parlait en français.
Oui, mais quand vous étiez petite, quand vous faisiez les fêtes de Noël, que vous receviez les cadeaux... Tu ne te rappelles pas, mais moi, je me rappelle. Tu avais plein de cadeaux partout. Et le plus beau cadeau que tu as aimé, c'était le mien. C'est un petit vélo avec un petit clown... dessus. T'as tout laissé les autres et t'as pris le mien. Là, ça m'a... J'ai dit, attends, père, regarde. C'est pas les gros cadeaux qu'ils font des fois.
Pour les enfants. Oui, parce que t'étais souvent avec nous à la maison à Paris. Tu venais nous garder quand maman, elle allait
Je venais souvent,
sur les tournages.
Il y a des fois où je suis restée 3 mois.
Il y a plein de vidéos où on dansait tout le temps. Et tu te souviens quand tu as rencontré pour la première fois la famille de maman, cette toi et Sylvain?
Oui, je me rappelle
quand
bien.
Quand ils sont venus de Palestine.
Oui, ils sont très, très...
Qu'est-ce que ça t'a fait?
Ben, j'étais contente de faire la connaissance de ses parents.
Est-ce que tu aimerais aller en Palestine?
Ben, j'aurais aimé, mais bon, maintenant...
Ben, pour l'instant, tu peux pas, parce qu'avec le passeport algérien...
Oui, je peux pas, je vais pas changer mon passeport pour aller...
T'as que ça comme passeport.
Non, mais ça reste comme ça.
Ouais.
C'est pas mon âge que je vais changer paperasse, papier.
Ça va, tu peux dire paperasse. Tu aimes bien quand je te fais les massages, là, c'est notre nouvelle.
Ah, ça, c'est...
Moi, quand je viens, tu me fais les œufs mimosa.
Eh ben, bah, comme ça, dès que je sais que t'arrives...
Et Chorba Afrique.
Ouais.
Ça, c'est mon préféré. Donc, je mange les œufs, la soupe, après je fais la sieste, après je lui fais un massage.
Voilà.
Ça te fait plaisir qu'on puisse partager ces moments?
Ah ben, c'est... Personne ne m'a fait ça. J'osais pas, mais t'es arrivé quand même à me masser de là jusqu'au talon. Là. Je lui ai dit, allez, vas-y, la pâte modelée.
Bientôt, tu vas voir le film en grand écran pour la première fois.
Ah oui, là, ça, je l'attends avec impatience.
Tu ne l'as pas encore vu? Qu'est-ce que tu ressens?
Je ressens déjà la fierté de ma petite fille et puis pouvoir nous voir tous comme ça et tous les amis, toute la famille qui va nous voir. Et puis, c'est un truc qui va rester à vie chez vous. Sur les bancs, j'ai toujours mon téléphone à la main. Celle qui vient, regardez, c'est ma petite fille.
Ouais.
Parce que j'ai Facebook, j'ai... Je la suis partout.
Un ensol majeur entremêlé donc à un esprit de famille. Merci Lina Swalem d'avoir partagé ce moment avec votre chère grand-mère Aïcha à l'occasion de la sortie de votre documentaire « Leur Algérie ». On va se quitter avec une certaine Dalida des années 60 et un petit Itsy Bikini. Aïcha qui rit déjà.
Mais c'est une chanson que tu me chantais tout le temps, que
oui,
t'aimes bien.
Je ne connais pas.
Juste pour te la faire écouter.
Ah bah, c'est pour écouter. Ah bah oui. Moi, j'ai eu peur.
Elle ne songeait qu'à quitter sa cabine. Elle s'enroula dans son peignoir de bain. Car elle craignait de choquer ses voisines. Et même aussi de gêner ses voisins. Un, deux, trois. Elle craignait de montrer quoi? Son petit bikini, bikini, oui, tout petit, petit bikini qu'elle mettait pour la première fois. Elle bikini, bikini, oui, tout petit, petit bikini, un bikini rouge et jaune à petits pois. Un, deux, trois, savez-vous ce qui arriva? Elle doit maintenant s'élancer hors de Londres. Elle craint toujours les regards indiscrets. C'est le moment de faire voir à tout le monde ce qui la trouble et qui la fait trembler. Un, deux, trois, elle a peur de montrer quoi? Son petit ici, ici, kini, wini, tout petit, petit bikini qu'elle mettait pour la première fois. Elle n'est si ici, kini, wini, tout petit, petit bikini, un bikini rouge et jaune à petits pois. Son petit ici, on peut la recommencer. Si c'est pas drôle, je m'excuse. En tout cas, c'est terminé.
En sol majeur, émission à retrouver, vous le savez, en podcast sur l'application Pure Radio ou bien derrière notre poste, chaque samedi et chaque dimanche à 14h10, temps universel. Le trio Caroline Filliette, Laura Pinto, Yasmine Chouaki revient la semaine prochaine avec un phénomène musical, déjà chef d'orchestre à 28 ans, vous pensez, Huel Lamor. À la semaine prochaine. Mondoblog avec